Les podcasts du Collège de France, philosophie.
La semaine dernière, en terminant, je vous avais parlé de l'attitude de Quine, aussi bien à l'égard de l'intuitionnisme qu'à l'égard des systèmes de logique plurivalents et des logiques déviantes en général. Alors, dans le passage que vous avez sous les yeux, donc, il exprime ses réserves à l'égard de en ce qui concerne l'utilisation de logiques plurivalentes. Et la raison principale qu'il donne de ses réserves, et même, disons, le mot de son refus hein, de ce genre de logique, c'est l'augmentation considérable de complexité qu'elles impliquent. Il dit une possibilité serait de renoncer à la loi du tiers exclu et de choisir plutôt une logique trivalente en reconnaissant des limbes entre vérité et fausseté. Donc il y a deux façons dont les choses peuvent se passer. Il y a les intuitionnistes qui conservent la logique bivalente mais qui contestent, en tout cas contestent, l'utilisation dans toute sa généralité du principe du tiers exclu. Et puis il y a les gens comme Lukasiewicz qui, sous la pression de certains problèmes philosophiques, on a vu qu'il s'agissait principalement du problème du déterminisme, Lukasiewicz donc propose lui d'ajouter une troisième valeur de vérité aux deux valeurs utilisées par les utilisateurs de la logique bivalente. Une possibilité, donc, dit-il, serait de renoncer à la loi du tiers exclu et de choisir plutôt une logique trivalente en reconnaissant des limbes entre vérité et fausseté comme troisième valeur de vérité. Ça veut dire donc qu'il s'agit du genre de solution qui consiste à introduire une troisième valeur de vérité d'une espèce un peu neutre, hein, qui représente un peu l'équivalent de ce que représentent les limbes entre le paradis et l'enfer. Les limbes, dans la théologie chrétienne, sont supposées être l'endroit où aussi bien les justes de l'Ancien Testament qui n'ont pas eu la chance d'être baptisés que les enfants qui sont morts sans l'être attendent le retour rédempteur du Christ. Alors on pourrait dire que c'est un terme qui est assez bien choisi pour caractériser la situation des propositions auxquelles s'intéresse Aristote dans le chapitre 9 du De Interpretatione, c'est-à-dire les propositions qui décrivent des événements futurs contingents, hein, comme par exemple il y aura demain une bataille navale ou il n'y aura pas de bataille navale demain. Pour Aristote, ce sont des propositions qui sont en quelque sorte dans les limbes, en ce sens qu'elles sont dans l'attente d'une valeur de vérité. On ne peut pas encore les caractériser comme étant soit vraies, soit fausses, mais elles acquerront une valeur de vérité, qui pourra donc être soit le vrai, soit le faux, au moment où commencera la série causale qui va rendre inévitable l'occurrence ou la non-occurrence de la bataille. Et là, évidemment, les choses peuvent devenir très compliquées parce que Lukasiewicz, par exemple, s'est interrogé de façon très intéressante sur ce problème. À partir de quel moment est-on en droit de considérer que cette série causale, donc la série causale qui va conduire soit à l'occurrence de la bataille, soit à sa non-occurrence, à partir de quel moment peut-on considérer que cette série causale a commencé? Et la réponse à donner à la question n'est pas du tout facile, hein, puisqu'on peut penser que jusqu'au dernier moment, il reste possible que la bataille qui se prépare soit évitée. Par exemple, au tout dernier moment, le général pourrait se raviser ou des circonstances d'une autre sorte pourraient conduire à une modification complète du cours des événements qui aura pour conséquence que la bataille n'aura pas lieu. Et d'une certaine façon, on est tenté de répondre à cette question que stricto sensu, la série causale qui est susceptible de rendre inévitable l'occurrence de la bataille ne peut être dite commencer qu'au moment où la bataille elle-même commence. Hein, si vous essayez de la faire commencer à quelque moment que ce soit avant, vous vous trouvez confronté à ce problème qui consiste dans le fait qu'encore une fois, au dernier moment, il se peut que le cours des événements subisse une modification imprévue. Bon, je laisse de côté ce problème. Alors, ce qui dépend alors, dit Quine, de l'existence de Camelot, donc d'un objet fictionnel quelconque ou de quoi que ce soit, est la valeur de vérité plutôt que le fait de signifier, et cela est satisfaisant. Mais le prix à payer est la lourdeur de la logique trivalente, conjointement à ne pas, qui change les énoncés vrais en énoncés faux, les faux en vrais, et à présent les énoncés des limbes en énoncés des limbes, il y aurait une fonction de vérité qui change les énoncés vrais en énoncés des limbes, ceci en énoncés faux, et les énoncés faux en énoncés des limbes, et encore trois autres fonctions de vérité semblables à une place, épuisant toutes les combinaisons. Donc quoi, il considère deux façons possibles de choisir la négation, mais précise bien que ce ne sont pas les seuls. Il y a une façon qui consiste à faire correspondre. Alors, dans la logique trivalente, le vrai est représenté par 1, le faux par 0, et la valeur intermédiaire 1,5 représente, est conçue généralement comme représentant, c'est ce qui se passe en tout cas chez Lucas Schiewicz, quelque chose comme ni vrai ni faux, mais pouvant être soit vrai, soit faux. Donc il y a une façon de choisir la négation qui est celle de Lucas Schiewicz, qui consiste à considérer que quand P a la valeur vraie, c'est-à-dire 1, non P a la valeur 0, quand P a la valeur 1,5, non P a la même valeur, 1,5, et quand P a la valeur 0, c'est-à-dire le faux, non P a la valeur 1. Et puis, il mentionne une autre possibilité qui correspond au choix suivant, quand P a la valeur 1, c'est-à-dire vrai, non P a la valeur 1,5, quand P a la valeur 1,5, non P a la valeur 0, c'est-à-dire prend la valeur faux, et enfin, quand P a la valeur 0, c'est-à-dire faux, non P a la valeur 1,5. Alors, Quine, évidemment, est extrêmement sensible à cette augmentation très rapide, cet accroissement très rapide de complexité. Il dit, quand on passe aux fonctions à deux places, conjonction, disjonction et leurs dérivés, la prolifération perd toute mesure, elle reste contrôlable, mais une prime évidente s'attache à notre logique bivalente, simple et bien profilée. Comme vous pouvez le voir, l'argument essentiel de Quine en faveur de la conservation de la logique bivalente est la simplicité de celle-ci. Mais un partisan de la logique plurivalente objecterait évidemment que la simplicité n'est pas le seul élément qui doit être pris en considération et qu'une complexité plus grande peut parfaitement être acceptée dans certains cas si l'inconvénient qu'elle présente est compensé suffisamment par des avantages d'une autre nature. C'est ça la difficulté principale. Quelle raison y a-t-il de considérer dans la hiérarchie des valeurs auxquelles on peut être sensible lorsqu'on a à résoudre des questions de cette sorte, quelle raison y a-t-il d'accorder un avantage aussi déterminant à la simplicité? Et le point important est ici que, comme le souligne Villemin, il ne semble pas y avoir dans ce domaine de hiérarchie objective entre les préférences qui imposerait un choix déterminé comme étant le seul possible, ou en tout cas le seul qui soit rationnel. Est-il rationnel de privilégier à ce point la simplicité? Il faut noter encore que, en ce qui concerne l'idée que l'on ne peut pas, sous peine de ne laisser aucune place à la responsabilité morale, attribuer dès à présent une valeur de vérité aux énoncés décrivant des événements futurs contingents, Quine n'est pas non plus convaincu par cette conception qu'il qualifie d'étrange. Donc, il est inutile de dire qu'il n'est pas non plus persuadé par le genre d'argument qu'utilise Lucas Schiewicz. Et encore une fois, Lucas Schiewicz utilise un argument qui est essentiellement philosophique et qui est susceptible à ses yeux de motiver l'adoption d'une logique plurivalente, en l'occurrence de sa logique à trois valeurs de vérité. Bon, elle a l'avantage à ses yeux de permettre de résoudre un problème philosophique difficile qui est précisément celui auquel Aristote s'est attaqué dans le chapitre 9 du De Interpretatione. Alors, voyez, vous avez sous les yeux un passage qui indique clairement la réaction de Quine à propos de ce genre de solution, entre guillemets. La logique, on l'accordera, est déviante, la loi du tiers exclu est suspendue dans l'attente de la détermination causale, mais le caractère décitationnel de la vérité demeure. Je vous parlerai dans un instant de ce qu'il appelle le caractère décitationnel de la vérité. Bon, la première phrase de ce passage, bon, je vous en ai donné l'explication. La solution adoptée par Aristote semble signifier qu'effectivement la loi du tiers exclu est suspendue. On ne peut pas appliquer la loi du tiers exclu à une proposition comme il y aura demain une bataille navale. Il faut attendre que l'on soit en mesure de parler d'une détermination causale, hein, d'une détermination causale qui, de façon en quelque sorte inéluctable, va conduire à l'occurrence ou à la non-occurrence de l'événement. Par exemple, si vous prenez une proposition qui prédit qu'il y aura demain une éclipse de soleil vous formez la disjonction « demain il y aura une éclipse de soleil ou il n'y en aura pas », Aristote ne conteste nullement qu'on puisse appliquer le principe du tiers exclu à une proposition comme celle qui décrit donc l'occurrence ou celle qui décrit la non-occurrence d'une éclipse de soleil demain. La raison de ça, c'est qu'évidemment la série causale qui est susceptible de conduire à l'occurrence de l'événement, si elle doit exister, peut très bien déjà avoir commencé. Par conséquent, encore une fois, l'exception à faire l'exception à faire en ce qui concerne l'application du principe du tiers exclu ne concerne que les propositions décrivant des événements futurs contingents et non les propositions qui décrivent des événements futurs qui sont déterminés et prédictibles comme sont censés être l'occurrence d'une éclipse. Alors, l'étrangeté, dit Quine, l'étrangeté demeure aussi. Il y a abandon du tiers exclu, il y a également le rétrécissement draconien du champ des énoncés avec une valeur de vérité fixée. Donc, il va y avoir un nombre considérable et plus ou moins imprévisible d'énoncés auxquels il va devenir difficile, pour ne pas dire impossible, d'attribuer une valeur de vérité déterminée. Heureusement, dit Quine, il y a tout de même une consolation. Heureusement, cependant, l'argument théologique sous-tendant cette démarche désespérée est peu concluant sur deux points. L'un est la supposition d'un Dieu omniscient, l'autre est l'idée que le déterminisme universel exclut la liberté d'action. Nous sommes libres et responsables, pouvons-nous argumenter en ce que nous agissons comme nous choisissons de le faire, savoir si nos choix sont déterminés par des causes antérieures est en dehors de la question. Donc ici, comme vous pouvez le voir, Quine adopte une position de l'espèce qu'on appelle compatibiliste, c'est-à-dire il semble considérer qu'il n'y a pas nécessairement une incompatibilité quelconque entre le déterminisme le plus strict et la possibilité qu'il existe quelque chose comme ce qu'on appelle un choix libre, c'est-à-dire nos actions libres pourraient être déterminées complètement du point de vue causal. C'est ce que pense par exemple Leibniz, hein, j'espère avoir l'occasion de vous reparler de ça de façon beaucoup plus précise l'année prochaine. Donc Leibniz pense que les actions libres sont tout aussi déterminées que les autres, ça ne les empêche pas néanmoins d'être libres. Et ici, vous voyez Quine défendre une position qui va assez nettement dans ce sens. Hein. Nous sommes libres et responsables, pouvons-nous argumenter en ce que nous agissons comme nous choisissons de le faire, savoir si nos choix sont déterminés par des causes antérieures, est en dehors de la question. Ça n'a pas, selon lui, de rapport avec la question. On remarquera enfin que le point de vue holiste défendu par Quine a pour effet de le rendre également a priori sceptique sur la possibilité de tracer une ligne de démarcation non arbitraire entre les énoncés auxquels on acceptera d'attribuer une valeur de vérité et ceux pour lesquels on refusera de le faire. Ce qui l'amène à rejeter la conception de Michael Dummett, qu'il interprète comme une contestation du principe du tiers exclu, constituant une extension à l'ensemble de la science du point de vue défendu par les intuitionnistes dans le cas des mathématiques. Et là, on peut noter au passage qu'en dépit des avertissements répétés de Dummett, Quine fait comme si le principe contesté par l'antiréalisme était le principe du tiers exclu et non pas plutôt le principe de bivalence. Mais nous pouvons laisser, je crois, de côté ce point accessoire. Vous voyez encore ce passage de Quine. Les considérations modérément holistique présenté ici, donc il s'agit du point de vue de Quine lui-même, les considérations modérément holistiques présentées ici sont peu en accord avec une doctrine actuellement défendue par Michael Dummett et dans laquelle il conteste la loi du tiers exclu pour des raisons épistémologiques. L'attaque fut lancée en logique par Brouwer tôt en ce siècle et Dummett reprend la même attitude à l'égard de la science en général. Donc il s'agit d'une extension proposée du point de vue intuitionniste à la science dans son ensemble. Son idée, en gros, est de compter pour ni vrai ni faux un énoncé de la science de la nature si aucune procédure n'est connue qui donne de solides arguments empiriques en faveur de sa vérité ou de sa fausseté. Donc on ne peut pas appliquer le principe du tiers exclu à une proposition de la science empirique si on n'a aucune connaissance d'une procédure qui permettrait de vérifier soit la proposition elle-même, soit sa négation. Les considérations holistiques jettent le doute quant aux énoncés qui devraient alors être retenus à titre de candidat pour la vérité ou la fausseté. Donc comment tracer la ligne de démarcation que l'on souhaiterait pouvoir faire passer entre les énoncés qui sont des candidats, comme dit Quine, au statut d'énoncé vrai ou faux, et les autres, hein. Comment tracer cette ligne de démarcation? Des candidats évidents, donc au statut d'énoncé susceptibles d'être considérés comme vrais ou faux, des candidats évidents de cette sorte sont les énoncés catégoriques d'observation. D'autres énoncés partagent à des degrés variables un contenu empirique en impliquant des énoncés catégoriques d'observation. Donc il y a, si vous voulez, premièrement les énoncés qui décrivent des observations directes, et puis il y a ensuite tous les énoncés qui ont un contenu empirique, impliquant des énoncés de cette sorte. Il paraît vain, dit Quine, de chercher une désobligeante différence entre énoncés susceptibles de vérité ou de fausseté est énoncé pour les limbes, c'est-à-dire énoncé auquel on renoncera à attribuer une valeur de vérité. À moins que, dit-il, nous ne tracions la limite au niveau des énoncés catégoriques d'observation eux-mêmes, ou bien encore à l'autre extrémité, de façon à exclure uniquement ces énoncés auxquels aucun contenu empirique ne parvient jamais, faute de participer à l'implication conjointe d'énoncés d'observation. Donc, vous voyez, là, il y a deux solutions extrêmes qui donnent l'impression l'une et l'autre d'être passablement arbitraires. Il y en a une qui consiste à ne retenir comme candidat au statut d'énoncé vrai ou faux que les énoncés qui décrivent que les énoncés d'observation directe, ou bien l'autre consiste à retenir globalement et solidairement tous les énoncés qui ont un contenu empirique quelconque, en ce sens qu'ils impliquent des énoncés d'observation directe de quelque nature que ce soit. Mais de façon générale, on peut constater une fois de plus que Quine se montre préoccupé de rétablir une sorte d'égalité démocratique entre toutes les propositions. Autant Quine est politiquement parlant assez peu démocrate, autant sur ce genre de questions, il adopte une attitude qui peut être qualifiée de démocratique, c'est-à-dire qu'il résiste assez fortement de façon générale à l'idée d'établir des dichotomies, surtout si elles s'accompagnent de différences de dignité, hein, des dichotomies entre les propositions. Et c'est ainsi qu'il a mis en question, parmi les dichotomies traditionnelles, la dichotomie entre les propositions a priori et les propositions a posteriori, la dichotomie entre les propositions analytiques et les propositions synthétiques, et, comme il le fait dans le passage que vous avez sous les yeux également, la dichotomie entre les propositions auxquelles on accepte d'attribuer une valeur de vérité et celles pour lesquelles on refuse de le faire. Donc toutes les dichotomies de cette sorte lui semblent plus ou moins contestables. En ce qui concerne l'intuitionnisme au sens étroit, Quine estime que si on acceptait les restrictions que ses défenseurs cherchent à imposer, le prix à payer serait, du point de vue de la clarté, de la simplicité et de la commodité, incontestablement élevé, et le bénéfice que l'on peut espérer obtenir serait trop réduit pour que cela en vaille réellement la peine. Il ne voit aucune raison de se laisser tenter par l'idée de réduire la notion de vérité à quelque chose comme celle d'acceptabilité garantie, et il dit clairement pourquoi. Donc, comme vous le voyez, il n'est aucunement tenté, de manière générale, par le genre d'attitude qui consiste à proposer de remplacer carrément la notion de vérité par celle d'acceptabilité garantie ou par une solution plus modérée qui consiste à essayer de conserver, dans la mesure du possible, un lien entre ces deux choses, d'un côté la vérité, de l'autre l'acceptabilité garantie. Voyez par exemple ce passage où il dit les choses tout à fait clairement. « Tous ceux qui, comme moi, ne sont guère convaincus par les thèses intuitionnistes, y restent aussi indifférents et persistent à distinguer entre l'acceptabilité garantie et la vérité. » Donc, ils refusent, par exemple, dans le cas des mathématiques, la tendance à identifier la vérité avec la démontrabilité, et ils récusent, dans le cas plus général, la tendance à identifier la vérité avec l'acceptabilité garantie. « Si un énoncé mérite une place quelconque dans l'usage scientifique, alors, du même coup, le fait de l'identifier comme vrai en mérite une. » Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est en gros que si un énoncé est considéré comme méritant d'être pris au sérieux, du point de vue qu'il appelle scientifique, alors il faut accepter aussi d'envisager la possibilité qu'il soit vrai. Hein, c'est-à-dire, dans la mesure où il s'agit d'un énoncé qu'on accepte de prendre au sérieux d'un point de vue scientifique, il faut accepter de lui attribuer une valeur de vérité possible, de le considérer comme susceptible d'être vrai. Car, pour citer Tarski, la neige est blanche, entre guillemets, est vraie, si et seulement si la neige est blanche. Donc, vous voyez, on peut accorder à peu près autant de respectabilité, carrément autant de respectabilité du point de vue scientifique à la proposition « la neige est blanche est vraie » qu'on en accorde à la proposition « la neige est blanche ». En dissociant la vérité de toute garantie, nous devenons libres d'admettre que certaines vérités sont accessibles et d'autres non, et de considérer comme faux les énoncés restants. Notre récompense est le confort de la simplicité. Et vous voyez là qu'à nouveau l'argument essentiel de Quine est le gain réalisé du point de vue de la simplicité. Alors la solution donc, qu'il propose, qui lui paraît bien préférable à celle qui est suggérée par les intuitionnistes, ou par les gens comme Domet, qui proposent de généraliser la position des intuitionnistes à l'ensemble de la science. Donc la solution qu'il propose est celle qui consiste à continuer à admettre qu'il y a à la fois des vérités qui sont accessibles et d'autres qui ne le sont pas. Il a considéré que tous les autres énoncés, que tous les énoncés restants sont des énoncés faux. Ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de. Il n'y a aucune raison de considérer comme choquant le fait d'admettre l'existence de vérités qui sont inaccessibles, c'est-à-dire que peut-être nous ne réussirons jamais à reconnaître. Donc, compte tenu de ça, vous pouvez conclure que Quine ne remet nullement en question le concept réaliste de la vérité. Encore une fois, il n'a pas de sympathie pour les solutions, les réponses ou les attitudes anti-réalistes. Donc, il ne met pas en question le concept réaliste de la vérité et il reste insensible aux arguments de ceux qui suggèrent de remplacer la vérité par une notion de vérifiabilité convenablement choisie. C'est tellement vrai qu'il va à certains moments jusqu'à suggérer qu'il est prêt à renoncer au concept de connaissance, mais pas à celui de la vérité comprise de façon classique. Et ça, c'est encore un point dont il faut que je vous dise un mot, parce qu'il est très, c'est quelque chose de très caractéristique chez Quine. Mieux vaut, au fond, explique-t-il, continuer à parler de croyances que l'on peut présumer, avec de plus ou moins bonnes raisons, être vraies, sans se préoccuper outre mesure de savoir à partir de quel moment les croyances sont suffisamment solides et certaines pour pouvoir être considérées comme des connaissances. Donc il n'est pas question de renoncer au concept de croyance, ça va sans dire. Il n'est pas non plus question de renoncer au concept de croyance susceptible pour de bonnes raisons d'être considéré comme vrai, mais en revanche, il est difficile de se faire une idée bien arrêtée sur le moment à partir duquel les croyances présumées vraies sont suffisamment justifiées, sont justifiées par des raisons suffisamment solides pour qu'on puisse les considérer, à juste titre, comme des connaissances. Donc, Quine éprouve des réticences non dissimulées à l'égard de l'utilisation du concept de connaissance lui-même. Et il dit, à certains moments, donc, il utilise un argument du type suivant, enfin, un argument qui consiste à soulever la question suivante, à partir de quel moment peut-on considérer que nous connaissons ce que nous croyons c'est d'après cette question, donc à partir de quel moment peut-on considérer que nous connaissons ce que nous croyons, c'est une question, suggère-t-il, qui est assez semblable à la question à partir de quel moment peut-on considérer qu'une taille est suffisamment grande pour être dite grande. Autrement dit, on ne sait pas trop à partir de quel moment, encore une fois, une croyance est susceptible, mérite d'être considérée comme suffisamment solide et certaine, appuyée sur des raisons suffisamment bonnes pour qu'on puisse lui conférer la dignité et le nom de connaissance proprement dite. Alors une telle attitude pourrait ressembler à première vue à du scepticisme, mais c'est d'après Quine à peu près le contraire de cela qui est vrai. Car il ne conteste en aucune façon la réalité de la connaissance, autrement dit l'existence de croyances qui constituent réellement des connaissances, mais il souligne simplement les difficultés et les limitations que comporte l'utilisation du concept de connaissance. C'est un concept qui, encore une fois, suscite chez lui des réticences sérieuses, et il se défend, encore une fois, de chercher à défendre une position sceptique. Cela n'a rien à voir, dit-il, avec le scepticisme. Les sceptiques acceptent le concept de connaissance et nient ses applications. Quine fait presque le contraire. Il accepte ses applications, mais il a des doutes sur le concept de connaissance lui-même. Donc, cela n'a rien à voir avec le scepticisme. Les sceptiques acceptent le concept de connaissance et ils nient ses applications. Ils pensent qu'on ne peut jamais l'appliquer, parce qu'il n'y a pas de croyance qui soit jamais suffisamment, qui repose jamais sur des raisons suffisamment bonnes pour pouvoir être appelées des connaissances. Quine, encore une fois, fait l'inverse. Donc, il accepte les applications. Il y en a, selon lui, une multitude d'applications du concept de connaissance qui sont tout à fait non problématiques, mais encore une fois, c'est le concept qui lui pose un problème. Notre conclusion, en revanche, dit-il, est que philosophiquement et scientifiquement parlant, le terme connaissance n'est ni assez cohérent ni assez précis. Il garde son utilité dans la vie de tous les jours, à l'instar du mot grand. Et contrairement à ce qu'affirme le sceptique, il s'applique alors parfaitement à un grand nombre de situations. Donc, le problème est simplement que très vite, on ne sait plus très bien si on doit encore ou non appliquer le concept de connaissance, si on peut ou non encore appliquer légitimement le concept de connaissance à une croyance qui se présente avec un certain nombre de titres, hein, c'est-à-dire une croyance qui se présente comme vraie et comme reposant sur des raisons suffisantes. Donc vous voyez que, aux yeux de Quine, le concept de connaissance a des utilisations ordinaires qui sont très précieuses et auxquelles il n'est pas question de renoncer. Mais il n'est pas du tout certain que cela ait un sens de chercher à en construire un usage technique et savant, parce qu'il ne semble pas possible de conférer au concept une cohérence et une précision suffisantes. Pourtant, si le concept est vague, il vaut peut-être mieux donc lui conserver ce vague que d'essayer de le rendre technique et véritablement technique et savant. Et Quine fait à ce propos une remarque que je me permets de vous citer parce qu'elle est tout à fait intéressante, à propos d'une des conséquences qui résulte de ce caractère un peu problématique du concept de connaissance. Il dit, je cite, « Les limitations du concept de connaissance ont eu des retombées insidieuses au-delà du champ philosophique. Ainsi, les créationnistes ont pu défier les évolutionnistes d'autant plus facilement que ces derniers, en tant que scientifiques, répugnaient à revendiquer une certitude absolue. Les créationnistes pouvaient dès lors répondre que leur théorie méritait autant d'attention que sa rivale, puisqu'on ne savait pas, souligné, puisqu'on ne savait pas avec certitude si la théorie de l'évolution était vraie. » Ça, c'est l'argument du type « vous ne savez pas, donc je sais aussi bien que vous ». Et même mieux, même si je ne sais moi-même pas du tout, je sais en tout cas aussi bien que vous. Les défenseurs de la religion et les occultistes sur d'autres fronts puissent aux mêmes sources pour galvaniser leurs troupes. Il arrive aussi que certains avocats d'assises peu scrupuleux s'arrangent pour exploiter l'honnêteté scientifique et l'aveu de faillibilité des experts en insistant sur le fait que nul ne sait, souligné, nul ne sait sans doute ni équivoque possible. Si l'accusé était en pleine possession de ses facultés, nul ne sait si l'accusé était en pleine possession de ses facultés au moment du crime. Mais peut-être est-ce attesté au-delà de tout doute raisonnable. Si la justice doit prévaloir, toute la question est là. Donc la question, c'est est-ce que la culpabilité de l'accusé était attestée de la façon qu'on appelle au-delà de tout doute raisonnable. Mais si vous voulez, ce que Quine observe dans le cas précis, c'est la tendance évidemment à manifester toujours des exigences maximalistes à l'égard de l'adversaire. Hein, c'est-à-dire on lui demande d'être absolument certain de savoir, et si par honnêteté et par modestie, il reconnaît qu'il y a doute possible, alors à ce moment-là, évidemment, l'adversaire triomphe en disant « mais puisque vous ne savez pas, personne ne sait, donc je sais aussi bien, et même peut-être finalement mieux que vous ». Alors la situation à laquelle Quine fait allusion, bon, est une situation tout à fait familière et que vous avez sûrement rencontrée vous-même. Il y a de nombreux scientifiques, comme vous le savez certainement, qui sont de parfaits dogmatiques, mais il y en a également d'autres qui, parce qu'ils sont honnêtes, sont toujours prêts, au contraire, à insister sur le fait que nous savons réellement très peu de choses, même dans ce que nous savons le mieux, c'est-à-dire même dans les sciences. Ce qui place les scientifiques en question dans une position très défavorable par rapport aux défenseurs de la religion et des pseudo-sciences. Le scientifique honnête semble être conduit naturellement à adopter une attitude sceptique et cette tendance au scepticisme peut être, comme le souligne Quine, exploitée sans vergogne par des gens qui non seulement croient que l'on peut bel et bien aboutir à des vérités absolument certaines, mais encore sont absolument convaincus d'y être parvenus en ce qui les concerne. J'étais en train de penser à une chose que dit Goethe. Hein. Goethe dit « on ne sait vraiment que quand on sait peu hein, », ce qui est, ou devrait être en tout cas, la conviction de beaucoup de scientifiques. Mais comme l'observe Quine, un scientifique qui a tendance à abonder dans ce sens et à dire au fond nous savons très peu de choses, mais même peut-être à peu près rien, évidemment, aura facilement tendance à faire involontairement le jeu de gens qui sont au contraire tout à fait convaincus qu'on peut arriver à des certitudes totales et qui s'empressent de s'engouffrer dans la brèche et de conclure que, puisque même les scientifiques ne savent pas, les défenseurs de la religion savent au moins aussi bien qu'eux et même probablement mieux. Donc, cette réaction, si vous voulez, celle de gens qui considèrent que s'il est entendu que personne ne sait réellement, ils peuvent, pour leur propre compte, se considérer comme aussi justifiés que d'autres dans leur façon de croire et d'affirmer qu'ils savent. Comment faut-il analyser la situation qui s'instaure lorsqu'on en arrive à faire à peu près le contraire de ce que Quine déclare vouloir faire? On a vu que Quine tient à conserver le concept de vérité, et même le concept de vérité réaliste, mais il a des doutes en ce qui concerne le concept de connaissance. Mais on peut très bien être tenté, je crois que c'est assez facilement, c'est ce qu'on observe assez fréquemment aujourd'hui, on peut très bien être tenté de proposer au contraire de se débarrasser plus ou moins de la notion de vérité, tout en conservant la notion de connaissance. Que quelque chose de ce genre soit en train de se passer en ce moment, et ce qui est suggéré assez clairement, je crois, par le passage que vous avez sous les yeux, tiré du livre de Harry Frankfurt, On Bullshit. Alors, bullshit, c'est très difficile à traduire. Je crois que dans la traduction française, on a traduit bullshit par foutaise. Moi, je pense que déconnant, je ne sais plus si on a traduit par foutaise ou par connerie. Enfin bon, dans le passage que vous avez sous les yeux, j'ai traduit par déconnance. Et vous allez voir ce que la déconnance vient faire ici. Frankfurt propose de considérer que ce qu'on appelle en anglais bullshit est quelque chose qui pourrait être caractérisé comme consistant dans une absence d'intérêt complète pour la vérité, hein, ce qui est quelque chose de différent du scepticisme. Le scepticisme continue à manifester une certaine déférence à l'égard de la vérité, mais soutient que nous sommes dans l'incapacité de l'atteindre. Tandis que ce qui est appelé bullshit, c'est une attitude qui consiste à manifester une absence totale d'intérêt pour la question de la vérité elle-même. Donc, Frankfurt dit ceci: la prolifération contemporaine de la déconnance a également des sources plus profondes dans des formes variées de scepticisme qui nient que nous puissions avoir un accès sûr quelconque à une réalité objective et qui, par conséquent, rejette la possibilité de connaître la manière dont les choses sont réellement. Ces doctrines antiréalistes sapent la confiance dans la valeur des efforts désintéressés pour déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux, et même dans l'intelligibilité de la notion de recherche objective. Une réponse à cette perte de confiance a été une retraite effectuée de la discipline exigée par la dévotion à l'idéal de la correction, donc une retraite de cette position-là, qui consiste dans l'adoption de la discipline exigée par la dévotion à l'idéal de la correction, vers une espèce complètement différente de discipline qui est imposée par la poursuite d'un autre idéal, celui de la sincérité. Au lieu de chercher en premier lieu à arriver à des représentations exactes d'un monde commun, l'individu se tourne vers la tentative de fournir une représentation honnête de lui-même. Convaincu que la réalité n'a pas de nature inhérente, qu'il pourrait essayer d'identifier comme étant la vérité sur les choses, il se consacre à l'effort d'être vrai à l'égard de sa propre nature. C'est comme s'il décidait que, puisque cela n'a pas de sens d'essayer de représenter fidèlement les faits, il doit en conséquence essayer, au lieu de cela, de se représenter fidèlement lui-même. Et, si vous voulez, il y a dans un premier temps, donc on décrète que la notion de vérité, la vérité est quelque chose à quoi nous sommes beaucoup trop intéressés, à quoi nous avons accordé jusqu'à présent beaucoup trop d'importance. Donc on considère que le moment serait venu peut-être de ne plus accorder d'importance, en tout cas de ne plus accorder une importance primordiale à cette notion de vérité, et on propose de la remplacer par la notion de sincérité, de sorte que la conséquence étant, si vous voulez, que les croyances n'ont plus à être jugées. Elles n'ont plus à être jugées sur les chances qu'elles ont d'être vraies, mais sur leur sincérité, ce qui en effet est une description assez exacte de la situation actuelle. On a tendance à penser que la seule exigence que l'on puisse avoir à l'égard d'une croyance, c'est qu'elle soit sincère. Demander des explications sur les chances réelles qu'elle a d'être vraie est presque déjà considérée comme une forme d'intolérance. Ce qui suggère bien qu'effectivement, la notion qui est proposée en premier lieu pour remplacer la notion de vérité est une notion du type de la sincérité, c'est-à-dire, comme pour reprendre l'expression que Frankfurt utilise pour la caractériser, il ne s'agit plus tellement d'être honnête envers une réalité qui est indépendante de nous, mais il s'agit plutôt d'être honnête envers nous-mêmes, envers ce que nous sommes. Une fois qu'on a décidé de se désintéresser de la vérité pour la remplacer par la sincérité, les croyances qui n'ont plus besoin pour cela d'être vraies et pas davantage d'être justifiées peuvent facilement donner l'impression d'avoir toutes les prétentions, d'avoir toutes des prétentions légitimes et équivalentes au titre de connaissance. À supposer, bien entendu, que le mot connaissance puisse avoir encore un sens, ce qui est pour le moins peu probable, mais n'empêche pas nécessairement de continuer néanmoins à l'utiliser. Autrement dit, il est tout à fait possible, mais même après avoir effectué implicitement ou explicitement cette opération qui consiste à remplacer, à oublier la vérité pour la remplacer par la sincérité, il est tout à fait possible de continuer néanmoins à utiliser le concept de connaissance. Ce qui fait que, par moment, on a un peu l'impression d'assister à une généralisation de la situation que décrit Anatole France à propos de la position de l'abbé Jérôme Coignard sur les questions théologiques. Je crois que je vous avais déjà cité ce passage qui me semble très remarquable. Anatole France dit, à propos de son héros, donc l'abbé Jérôme Coignard, « Considérant qu'il est impossible de concevoir l'univers autrement que sous les catégories de l'intelligence, et qu'il faut tenir le cosmos pour intelligible, même en vue d'en démontrer l'absurdité, il en rapportait la cause à une intelligence qu'il nommait Dieu, laissant à ce terme son vague infini et s'en rapportant pour le surplus à la théologie qui, comme on sait, traite avec une minutieuse exactitude de l'inconnaissable. » Peu de théologie que j'ai fait m'inciterait assez fortement à adopter le même genre de description pour cette discipline. Mais ce n'est pas pour ça que je vous cite ce passage, c'est parce qu'il me semble qu'un bon nombre de philosophes de notre époque semblent croire plus ou moins que ce qui est vrai de la théologie l'est aussi, à peu de choses près, des sciences. Elles aussi traitent avec une exactitude minutieuse et impressionnante de choses qui ne sont au fond pas beaucoup plus connaissables ni plus réellement connues que celles dont traite la théologie, ce qui a pour effet évidemment d'établir une certaine équivalence entre les deux, je veux dire entre les sciences et la théologie. Mais évidemment, s'il est vain de prétendre à des connaissances au sens traditionnel, ce qui devrait vouloir dire au minimum des croyances vraies sur quoi que ce soit, donc s'il est vain de prétendre à des connaissances dans ce sens-là, il est toujours possible, semble-t-il, de parvenir à des croyances aussi précises et assurées que l'on veut sur n'importe quelle espèce d'objet, et on se persuade aisément qu'elles pourraient remplacer avantageusement les connaissances d'autrefois. Et peut-être même que c'est ça, la connaissance, n'importe quel sujet sur lequel on a réussi à acquérir des croyances suffisamment précises et assurées, pourrait, dans ces conditions, être traité comme un sujet sur lequel on est parvenu réellement à quelque chose qui mérite d'être appelé la connaissance. Quine n'a, cela va sans dire, aucune tendance de cette sorte. Et c'est la raison pour laquelle on peut trouver un peu étrange de le qualifier, comme le fait Vidal-Rosset, de sceptique. Même si le scepticisme dont il s'agit en l'occurrence n'est pas un scepticisme quelconque, mais ce que Vidal-Rosset appelle un scepticisme platonicien, une expression dont il reconnaît d'ailleurs lui-même qu'elle est paradoxale. J'ai évoqué il y a un instant l'attitude de Quine à l'égard de concepts comme ceux de croyance, de connaissance et de vérité. En ce qui concerne la croyance, il insiste sur le caractère particulièrement hétéroclite des choses qui sont susceptibles de constituer des objets de croyance. Vous voyez, par exemple, ce passage où il soulève la question « Quel trait commun a pu regrouper des états d'esprit si follement divers, réels ou affectés, sous un seul terme commode, croyance ?»« Aucun, dirais-je. Ils sont regroupés plutôt par un joker linguistique, la conjonction « que » peut préfixer sans problème n'importe quelle phrase déclarative pour produire un complément d'objet direct grammaticalement impeccable et donc en principe sensé au verbe « croit ». Donc n'importe quelle proposition déclarative douée de sens peut être transformée en un objet de croyance, enfin son contenu en tout cas peut être transformé en un objet de croyance, il suffit de lui préfixer le verbe « croire ». Quine prend du reste un certain plaisir à signaler un paradoxe assez étonnant qui affecte notre usage du concept de croyance. En tout cas, il considère qu'il s'agit réellement d'un paradoxe. C'est le deuxième extrait que vous avez sous les yeux. « Croire quelque chose, dit-il, c'est croire que cette chose est vraie. » Donc ça, c'est à peu près incontestable. Croire que P, croire la proposition P, hein, c'est croire que P est vrai. Aussi, bien sûr, on peut se faisant se tromper, on peut tout à fait croire une proposition fausse, et c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Donc croire quelque chose, c'est croire que cette chose est vraie. Ainsi, un être raisonnable croit que chacune de ses croyances est vraie. Un être raisonnable, semble-t-il, croit que chacune des choses qu'il croit est vraie, parce qu'il est tout de même assez difficile d'envisager le risque que certaines des choses qu'il croit précisément en ce moment soient des choses fausses. Donc, croire quelque chose, c'est croire que cette chose est vraie. Ainsi, un être raisonnable croit que chacune de ses croyances est vraie. Pourtant, il sait d'expérience que certaines de ses croyances, mais il ne sait pas lesquelles, se révéleront fausses. Bref, un être raisonnable croit que chacune de ses croyances est vraie et que certaines d'entre elles sont fausses, ce qui semble être une contradiction flagrante. Et dans la grosse difficulté, c'est dans ce genre d'argument, c'est le sens qu'il convient de donner au terme « savoir ». Que veut-on dire quand on dit qu'on sait avec certitude que certaines des croyances qu'on entretient en ce moment sont fausses. Donc bref, un être raisonnable dit quoi ? Il croit que chacune de ses croyances est vraie, que certaines d'entre elles sont fausses. Pour ma part, j'attendais mieux des gens raisonnables. Quine, malheureusement, ne nous en dit pas plus sur ce qu'il attendait au juste des gens raisonnables. Qu'est-ce qu'il voudrait exactement que les gens raisonnables croient, étant donné que, stricto sensu, ils n'ont pas de maîtrise en ce qui concerne l'équivalence entre croire que P et croire que P est vrai. Les gens raisonnables, d'ailleurs raisonnables ou non, personne ne peut changer grand-chose à cette situation. Et si, par ailleurs, il y a des raisons sérieuses de penser qu'on est en mesure de savoir d'ores et déjà que certaines des choses qu'on croit sont fausses et se révéleront un jour être fausses, ben on se trouve évidemment aux prises avec cette difficulté. Alors, en ce qui concerne le concept de connaissance, je vous ai donné une idée de la façon dont Quine le considère. Non seulement, d'après lui, il est difficile, peut-être même impossible, à définir ce concept de façon réellement satisfaisante, comme on le sait au moins depuis Platon, puisque même la définition à première vue acceptable qui propose d'identifier la connaissance à la croyance vraie accompagnée de sa justification, même cette définition admet des contre-exemples bien connus et qui ont été souvent discutés. Donc c'est une question tout à fait réelle et sérieuse que de savoir si on dispose réellement d'une définition précise satisfaisant pour le concept de connaissance. Mais ce n'est pas tout. En plus de cela, le concept est, estime Quine, d'un usage très difficile et d'une utilité qui, en fin de compte, est loin d'être évidente. Reste la vérité, et plus précisément la vérité comme correspondance, à laquelle Quine reste convaincu qu'il est impossible de renoncer et qui peut, selon lui, être réconciliée sans trop de difficultés avec la vérité cohérence. Dans la mesure où les deux conceptions de la vérité, donc la conception de la vérité comme correspondance et la conception de la vérité comme cohérence, donc d'après lui, ces deux conceptions de la vérité reflètent simplement deux aspects différents et également importants du concept de vérité. Donc, il pense qu'il n'y a pas de conflit réel entre ces deux façons de considérer la vérité. Tout bien considéré, dit-il, la cohérence et la correspondance ne se présentent pas comme des théories rivales de la vérité, mais comme des aspects complémentaires. L'une touche à la façon dont on parvient à la vérité en tirant le meilleur parti de ce que l'on sait, notamment en déduisant des conséquences de certaines propositions qui ont déjà été reconnues comme vraies. Donc ça, c'est l'aspect cohérence, si vous voulez. Et puis, il y a l'aspect correspondance. Donc l'autre aspect a trait à la relation entre les vérités et ce dont elle parle, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut qu'une proposition entre en relation avec quelque chose d'autre que d'autres propositions, c'est-à-dire qu'elle soit capable d'entrer en relation avec la réalité extralinguistique. Alors, cette référence à la vérité, et plus précisément à la vérité correspondance, constitue au moins à première vue un élément de réalisme indiscutable dans la position de Quine. Mais dès que l'on réfléchit un peu à ce qu'il faut entendre ici par correspondance, les choses deviennent moins claires. S'il y avait d'un côté des faits qui sont susceptibles d'exister de façon indépendante dans la réalité, et de l'autre des propositions, entendez, en l'occurrence des propositions vraies qui les représentent, on pourrait parler d'une correspondance qui est établie entre eux. Mais les faits ne risquent-ils pas plutôt d'apparaître comme étant avant tout ce que Quine appelle je cite, des entités projetées à partir des énoncés vrais pour les besoins de la correspondance. Autrement dit, est-ce que les faits ne sont pas des entités qu'on a introduites précisément pour, dans le but de pouvoir parler d'être en mesure de parler de correspondance. Une correspondance d'une certaine sorte entre les énoncés vrais et la réalité. Si on se demande ce qui subsiste pour finir chez Quine et doit être conservé dans la théorie de la vérité-correspondance, on s'aperçoit que c'est seulement ce que l'on peut appeler l'aspect décitationnel de la correspondance entre la proposition et le fait. Quine dit dans « La poursuite de la vérité » que la décitation est, je cite, « le résidu valide de la théorie de la vérité-correspondance ». Donc on a l'impression que la seule chose qu'il retient pour finir de la théorie de la vérité-correspondance est ce que l'on peut appeler l'aspect décitationnel. Vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Considérez par exemple le passage suivant. Dès lors, qui est tiré de Quidité, « Dès lors, notre compte-rendu de la vérité de la neige blanche en termes de fait se ramène donc à ceci. » Et là, donc, il cite la fameuse équivalence tarskienne, « La neige est blanche, entre guillemets, est vraie, si et seulement si la neige est blanche. Comme Tarski l'a souligné, c'est ici qu'apparaît le résidu significatif de la théorie de la correspondance. Attribuer la vérité à un tel énoncé, c'est attribuer la blancheur à la neige. » Donc, attribuer la vérité à la proposition citée, à la neige est blanche, attribuer la vérité à cette proposition, c'est simplement attribuer la blancheur à la neige, ce qui correspond bien à une opération de décitation. C'est-à-dire, vous renoncez à citer la proposition, la neige est blanche, pour parler, en quelque sorte, directement de la réalité elle-même, en vous contentant d'attribuer directement la propriété concernée, c'est-à-dire la blancheur à la neige. D'où la remarque de Quine, l'attribution de la vérité à la neige est blanche, proposition entre guillemets, donc qui est citée, l'attribution de la vérité à la neige est blanche se contente d'annuler les guillemets et d'énoncer que la neige est blanche. La vérité est décitation. Oui, là, il y a vraiment une option tout à fait déterminée en faveur de ce qu'on appelle la théorie, ce qu'on appelle assez souvent la théorie décitationnelle de la vérité. Donc, c'est une théorie qui a été énormément discuté. Bon, je n'ai malheureusement pas le temps de m'attarder sur les objections diverses qu'on peut lui faire. Que la théorie de la correspondance aboutisse là, donc que la théorie de la correspondance se réduise à ça, à cet aspect décitationnel, voilà, dit Quine, pourrait-on dire, une fin ignominieuse. Effectivement, ce n'est pas particulièrement réjouissant de ne réussir à conserver dans l'idée de la vérité, plus précisément de la vérité de correspondance, de ne réussir à conserver que cet aspect. Mais, malgré tout, Quine ne propose pas du tout de conclure de cela à une théorie de l'évanescence de la vérité. Donc il ne suggère aucunement que nous pourrions envisager sérieusement de nous passer complètement du concept de vérité. Le prédicat vrai, remarque-t-il, reste indispensable et important, en dépit du fait que l'attribution de la vérité à un énoncé peut sembler se réduire à la simple affirmation de l'énoncé lui-même. Parce que ce que là, conception décitationnelle de la vérité nous dit, c'est au fond ça, c'est que attribuer la vérité à un énoncé revient en fait simplement à affirmer l'énoncé lui-même, ce qui peut donner l'impression que la théorie décitationnelle n'est qu'une version de ce qu'on appelle aussi la théorie de la vérité redondance. La propriété d'être vrai pour une proposition reste cependant inéliminable dans tous les contextes où il est impossible de citer la proposition concernée. Donc, il ne faut pas espérer réussir à se défaire complètement du concept de vérité pour la raison que je viens d'indiquer. C'est-à-dire que le prédicat vrai est aussi utilisé dans des contextes dans lesquels il n'est pas question de citer la proposition concernée. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on dit que les lois concernant la diffamation ne s'appliquent pas aux assertions vraies. Ou lorsque on jure devant un tribunal de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. On fait le serment de ne formuler que des propositions vraies et de formuler toutes les propositions vraies dont on a connaissance. Bon, mais dans ce cas-là, évidemment, il ne peut pas être question de les citer. Ce sur quoi porte le prédicat de vérité, dans les cas de cette sorte, n'est plus, dit quoi, une citation, mais une variable. Néanmoins, ajoute-t-il, en un certain sens, vous avez le texte quelque part. Oui, en un certain sens, pardon, l'approche décitationnelle définit bien la vérité, puisque en rendant la vérité de chaque énoncé aussi intelligible que l'énoncé lui-même, elle délimite clairement toutes nos vérités intelligibles. Ça, c'est un passage qui mériterait un long commentaire, parce que Quine dit au fond pour tout énoncé que nous comprenons, nous avons le droit d'utiliser tout énoncé, énoncé de type déclaratif, pour tout énoncé de cette sorte que nous comprenons suffisamment, nous avons le droit d'affirmer que nous comprenons ce que c'est pour un énoncé de cette sorte que d'être vrai. Si nous comprenons suffisamment l'énoncé, comme je le disais il y a un instant, nous sommes parfaitement autorisés à envisager la possibilité que cet énoncé soit vrai, c'est-à-dire à lui appliquer le concept de vérité, au moins de vérité possible, puisqu'il se peut très bien que nous ne sachions pas, en tout cas pour le moment, si il doit être considéré comme vrai ou faux. Mais il y a cette relation à laquelle Quine tient beaucoup, donc entre comprendre la proposition et comprendre l'éventualité que cette proposition se révèle être vraie. Donc, de tout ça, on peut conclure que Quine, bien qu'il donne l'impression d'adopter une conception, en l'occurrence la conception décitationnelle de la vérité, qui pourrait sembler impliquer ce genre de choses, donc il ne propose, encore une fois, aucunement de considérer le prédicat vrai comme étant, en fin de compte, vide de contenu. Quine dit que Tarski a fait apparaître le résidu significatif de la théorie de la vérité-correspondance comme consistant dans l'existence des équivalences bien connues de la forme « la neige est blanche » entre guillemets « est vrai si et seulement si la neige est blanche ». Une des conditions essentielles qui sont imposées à la définition de la vérité, telle que la donne Tarski, est qu'elle permette de déduire toutes les équivalences de cette sorte. J'insiste à nouveau sur le fait que il ne faut surtout pas dire, comme on le fait fréquemment, que ce genre d'équivalence entre la neige blanche, entre guillemets, est vrai d'un côté et la neige blanche de l'autre. Ce genre d'équivalence ne constitue nullement la définition sémantique de la vérité par Tarski. Malheureusement, c'est ce genre d'illusion qui conduit assez facilement dans le milieu philosophique à considérer la définition comme triviale et sans intérêt. Ce que Tarski dit est tout autre chose. Ce qu'il dit, c'est que n'importe quelle définition de la vérité, pour être acceptable, doit permettre de déduire toutes les équivalences de cette sorte. Alors, Quine, quand il commente le travail de Tarski, aurait pu ajouter que si on en croit ce que dit Tarski lui-même, sa définition de la vérité est en fait compatible avec n'importe quelle conception philosophique de la vérité, ce qui fait que si tout ce qui subsiste finalement de l'idée de la vérité correspondance est ce qui est contenu dans la définition tarskienne, on ne voit pas très bien comment l'adhésion à la théorie de la vérité correspondance pourrait être utilisée pour faire une différence entre les conceptions philosophiques diverses de la vérité et entre les systèmes philosophiques eux-mêmes. Si on dit par exemple, comme Vimin a tendance à certains moments à le faire, que ce qui caractérise le réalisme, c'est l'adoption d'une vérité d'une notion de vérité correspondance, de l'idée de la correspondance possible de l'énoncé vrai avec la réalité, évidemment, on risque de se heurter à une difficulté, parce qu'il faut s'entendre sur ce qu'on entend par la correspondance, et si Quine a raison, tout ce qui subsiste de la correspondance, c'est finalement un élément qui est susceptible d'être commun à toutes les conceptions de la vérité, puisque c'est précisément ce qui réside dans les équivalences tarskiennes, du type « la neige est blanche » entre guillemets est vraie, si et seulement si la neige est blanche. Tarski souligne que sa définition sémantique de la vérité, comme il l'appelle, n'implique rien concernant les conditions dans lesquelles une proposition comme « la neige est blanche » peut être assertée. Donc elle ne nous dit pas dans quel cas une proposition de cette sorte peut être assertée. Elle implique seulement que toutes les fois que nous assertons ou rejetons cette proposition, donc la proposition « la neige est blanche », nous devons être prêts à asserter ou à rejeter également la proposition corrélative, la proposition « la neige est blanche » entre guillemets est vraie. C'est tout ce que dit la définition. Tarski insiste là-dessus. Enfin, tout ce que dit la définition et tout ce que disent les équivalences tarskienne, c'est que une proposition comme la proposition « la neige est blanche est vraie » peut être assertée si et seulement si la proposition « la neige est blanche », purement et simplement, peut être assertée. Ce qui fait que vous avez la situation décrite par Tarski. Nous pouvons accepter, dit-il, la conception sémantique de la vérité sans abandonner aucune attitude épistémologique que nous pouvons avoir eue. Nous pouvons rester des réalistes naïfs, des réalistes ou des idéalistes critiques, des empiristes ou des métaphysiciens, tout ce que, quoi que ce puisse être, nous étions auparavant. La conception sémantique est complètement neutre par rapport à toutes ces questions. Alors, si elle est complètement neutre par rapport à toutes ces questions, évidemment, il est difficile de l'utiliser comme un argument en faveur de la théorie de la vérité correspondance, parce qu'elle ne semble pas pouvoir aller plus spécialement dans le sens d'une conception de cette sorte plutôt que dans celui de la conception de la vérité cohérence ou celle de la vérité succès qu'on a tendance à attribuer au pragmatisme. Donc, on se heurte à nouveau sur ce point à la difficulté que l'on a, et elle est vraiment très sérieuse, à donner un sens suffisamment précis et en même temps satisfaisant au terme de correspondance, quand on parle de vérité-correspondance. Et remarquez à ce propos que même un anti-réaliste qui soutient que la signification d'une proposition doit être donnée en termes de conditions d'assertion et non en termes de conditions de vérité, même un anti-réaliste ne contestera pas le fait que la proposition P peut être assertée si et seulement si la proposition P est vraie peut l'être aussi, puisque les deux propositions ont des conditions d'assertion identiques sur lesquelles, il est vrai, l'équivalence ne nous dit effectivement rien. Donc, encore une fois, l'équivalence ne nous dit pas à quelles conditions nous sommes. Elle ne dit rien sur les conditions d'assertion respectives de ces deux propositions, la neige est blanche est vraie et la neige est blanche. Elle nous dit simplement que nous pouvons inserter l'une d'entre elles si et seulement si nous pouvons inserter l'autre. Alors, si vous adoptez une position anti-réaliste, vous allez être tout aussi tenu que si vous adoptiez la position réaliste d'accepter les équivalences tarskiennes. Si vous avez une proposition donc la neige est blanche est vraie, si et seulement si la neige est blanche. Alors, si vous adoptez une position anti-réaliste, vous allez être amené à faire ce que Quine ne veut pas faire, c'est-à-dire à proposer de remplacer est vrai par quelque chose comme peut être asserté de façon justifiée. Vous allez remplacer la notion de vérité par une notion appropriée d'assertabilité garantie, ce qui veut dire que vous allez vous retrouver avec une équivalence du type la neige est blanche peut-être. Donc la neige est blanche est vraie, pardon, peut être assertée avec raison si et seulement si la neige est blanche peut être assertée et un anti-réaliste, évidemment, n'a strictement aucune raison de ne peut trouver rigoureusement rien à redire à cette équivalence. Par conséquent, lui aussi, même quelqu'un qui défend une conception anti-réaliste de la vérité ne pourra pas se soustraire à l'obligation d'accepter les équivalences tarskiennes, ce qui est une façon de dire que les équivalences elles-mêmes, encore une fois, je parle des équivalences qui sont censées constituer des conséquences de la définition et non de la définition elle-même, qui est tout à fait autre chose. Mais les équivalences semblent représenter quelque chose qui est tellement minimal et si peu compromettant qu'on ne peut pas espérer s'en servir, on ne peut pas espérer sérieusement s'en servir pour faire une différence entre les différentes conceptions de la vérité. Donc on peut supposer que quand il s'agit de tracer une ligne de démarcation entre les différentes attitudes philosophiques possibles à l'égard de la vérité, ce qui compte est peut-être moins la question du genre de correspondance qui peut exister entre la proposition vraie et ce qui la rend vraie que la question de la nature exacte de ce qui la rend vraie. Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est Est-ce que c'est la nature de cette correspondance supposée ou est-ce que c'est la nature de ce qui rend vrai la proposition quand elle est vraie? Quand Quine parle des limites de la théorie de la vérité cohérence et de la nécessité de conserver une place à la théorie de la vérité correspondance, il veut dire que ce qui rend vrai une proposition ne peut pas être, dans tous les cas, une relation à d'autres propositions. C'est pour ça qu'on a besoin, d'après lui, simultanément de ces deux conceptions, ou on a besoin de ces deux conceptions pour reconnaître deux aspects qui sont solidaires. Il y a des propositions qui sont vraies en vertu d'une relation, par exemple d'une relation de principe à conséquence, d'une relation déductive qu'elles entretiennent avec d'autres propositions. Puis il y a des propositions qui sont vraies, et semble-t-il, on doit toujours commencer par... C'est toujours par cela que les choses doivent commencer. Donc il y a des propositions qui sont vraies en vertu d'une certaine relation qu'elles ont avec la réalité. Pour que la connaissance, au sens propre du terme, puisse exister, il faut que la relation, donc, puisse... La relation que les propositions entretiennent avec autre chose ne soit pas condamnée à être uniquement, à être toujours une relation à d'autres propositions. Il faut aussi qu'elle puisse être une relation à autre chose, mais des divergences philosophiques considérables peuvent exister et existent concernant la nature de cette autre chose. Si on l'appelle la réalité, il y a justement des désaccords radicaux entre les philosophes concernant ce qu'est la réalité et ce qui fait partie de celle-ci, par opposition à ce qui relève uniquement de l'apparence. Comme j'ai eu l'occasion d'y insister à différentes reprises, les philosophes intuitionnistes, pour Villemin, se caractérisent par le fait que l'accord dont on peut parler dans leur cas n'est pas un accord entre une proposition et un fait, mais plutôt un accord entre des règles de méthode et des opérations de connaissance effectuées en application de ces règles. De sorte qu'on a un peu l'impression que l'idée d'une correspondance entre la proposition et le fait est remplacée par quelque chose comme une correspondance entre une règle et ses applications, ou entre une méthode et les applications de la dite méthode. C'est en tout cas une façon de faire la différence entre l'option dogmatique et l'option intuitionniste, hein, une façon de faire la différence qui est proposée par Villemin. Mais, d'une part, cette façon d'envisager la question de la correspondance laisse encore une grande latitude pour des options philosophiques qui diffèrent considérablement les unes des autres et qui sont susceptibles d'aller du réalisme modéré, je veux dire en anti-réaliste, il peut rester encore simplement un réaliste modéré, mais il y a toute une gamme d'options donc, qui peuvent aller du réalisme modéré à des formes d'idéalisme ou en tout cas d'anti-réalisme extrême si on est prêt à envisager la possibilité que les objets de la connaissance ne soit en fin de compte rien de plus que le produit des opérations de connaissance elles-mêmes. Je me suis attardé assez longuement sur ce problème, donc je ne vais pas y revenir. Il y a une autre difficulté, me semble-t-il, qui est qu'il semble évident que ce qui a justifié l'adoption des règles de méthode ne pouvait être en fin de compte rien d'autre que l'assurance raisonnable qu'elle nous donne que les croyances que nous serons amenés à former, si nous les suivons, seront dans tous les cas ou en tout cas dans un nombre suffisamment de cas, des croyances vraies, ce qui est bien le genre de problème que se pose Descartes, c'est-à-dire il faut concevoir les règles de la méthode d'une manière telle qu'elles minimisent dans tous les cas le risque d'aboutir à des croyances fausses. Il faut qu'elles nous donnent toutes les chances concevables hein, de n'aboutir jamais, si nous les appliquons, si on les applique de façon conséquente et correcte, de n'aboutir jamais qu'à des croyances vraies. Mais ça semble impliquer que nous avons, de ce qui rend vrai les croyances en question, quand elles le sont, une idée qui est au moins en partie indépendante de la méthode et que celle-ci ne permet pas à elle seule de caractériser. Il faut semble-t-il, que les règles de la méthode soient choisies en référence à une certaine idée de la vérité pour qu'on puisse dire qu'elles l'ont été d'une manière telle qu'elles maximisent les chances pour les croyances que nous serons amenés à former d'être vrai. Bon, c'est encore un problème à la fois très important et très difficile sur lequel je ne vais pas avoir le temps de m'attarder. Mais tout ça signifie que finalement la distinction que Villemin cherche à faire, avec raison, du reste je ne suis pas en train de mettre en question l'idée de le faire, mais la distinction qu'il cherche à faire, donc, ou la façon dont il essaie d'arriver à une façon satisfaisante de caractériser la différence entre les deux options principales, hein, l'option réaliste et l'option dogmatique, donc il se pourrait que ce soit encore plus difficile qu'il ne l'avait supposé. Alors j'en viens maintenant, juste pour, pendant quelques minutes, au dixième chapitre que j'avais pensé aborder, que j'avais intitulé « La connaissance philosophique est-elle possible ?» mais je vais malheureusement être obligé d'être bref parce que c'est notre avant-dernière séance, donc je vais me montrer malheureusement très succinct sur cette question. Mais néanmoins, je vais me risquer à vous dire encore quelques mots sur la façon dont se pose ce problème de la connaissance philosophique. On a vu que Quine entretenait de façon générale des doutes à l'égard de l'utilisabilité, si on peut parler, si on peut s'exprimer ainsi, de cette notion de la notion générale de connaissance, et qu'en est-il des utilisations qu'on aimerait pouvoir faire de ce concept de connaissance à propos de la philosophie. Alors Quine ne voit, et ça va presque sans dire, il ne voit aucune raison de renoncer à parler de croyance philosophique, et si on parle de croyance philosophique, on est pratiquement obligé de parler de vérité philosophique, pour une raison qui est, une fois de plus, triviale, hein, c'est-à-dire croire que P, croire une proposition quelconque, c'est croire que cette proposition est vraie. Encore une fois, avec le risque de se tromper, ça va sans dire. Mais du moment que croire une proposition et croire que cette proposition est vraie ne font qu'une seule et même chose, si on accepte d'utiliser le concept de croyance philosophique, et il semble difficile de faire autrement, on sera tenu, semble-t-il, de faire aussi une place pour l'idée de vérité philosophique. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, la question se pose de savoir ce qu'il en est du concept de connaissance. Je viens de parler donc de l'applicabilité possible, à la fois d'une part du concept de croyance, d'autre part du concept de vérité, aux propositions philosophiques. Mais qu'en est-il du concept de croyance? Et là, évidemment, ça devient beaucoup plus difficile. Il devient beaucoup plus difficile de décider si on doit ou non utiliser, si on doit ou non se donner en plus le droit d'utiliser le concept de connaissance. On a vu que c'était une difficulté qui existe dans le cas général. Elle existe, semble-t-il, encore bien plus dans le cas de la philosophie, puisque il y a certainement bien peu de cas, et même peut-être pas du tout de cas, dans lesquels nous puissions dire avec certitude que nous savons qu'une proposition philosophique est vraie et qu'elle constitue par conséquent une connaissance. Néanmoins, Quine n'a aucun doute sur le fait que la philosophie doit être considérée comme ayant pour objectif la recherche de la vérité au sens usuel du mot « vérité ». Et il ne fait manifestement pas beaucoup de différence entre la considérer comme une recherche de cette sorte, donc une recherche de la vérité au sens usuel du mot « vérité », il ne fait pas beaucoup de différence entre la considérer de cette façon et la pratiquer, sinon de façon scientifique, du moins dans un esprit scientifique. À ses yeux, ça veut dire à peu près la même chose. Mais cela soulève évidemment la question de savoir de quelle façon on doit se comporter à l'égard de thèses et de doctrines philosophiques dont on est convaincu, comme cela arrive tout de même assez souvent, qu'elles sont fausses et même absurdes. Sur ce genre de questions, Quine se montre finalement beaucoup plus modéré et plus prudent qu'on ne pourrait le croire à première vue. De même qu'il se pose la question de la tolérance dans le cas de la religion, la façon dont il se pose le problème de la façon dont on doit se comporter à l'égard de façon tout à fait générale, et à l'égard de croyances qu'on considère comme manifestement fausses et même absurdes. Le problème peut se poser à propos de certaines croyances religieuses, mais il peut se poser aussi, bien sûr, il se pose réellement à propos de la philosophie. Alors, la tolérance, dit-il, pose un problème parallèle à celui de la religion, mais moins lourd de conséquences dans l'enseignement de sujets polémiques tels que la philosophie. Et là, il n'hésite pas à caractériser l'enseignement de la philosophie comme l'enseignement d'un sujet polémique. Il a l'air de considérer la philosophie comme étant, en quelque sorte, intrinsèquement polémique. Il faudrait, dit-il, une représentation équilibrée des philosophies rivales, insiste-t-on. Donc il faudrait que les philosophies rivales soient représentées honnêtement. Donc il y a une représentation équilibrée des philosophies que l'on n'accepte pas. Certes, si l'on retient uniquement l'histoire et la sociologie de la philosophie, ou l'histoire et la sociologie de la religion. Donc, il est facile d'être tolérant si on adopte un point de vue qui est exclusivement celui de l'histoire et de la sociologie. Il est facile d'être tolérant à l'égard de la religion si le point de vue qu'on adopte à l'égard de la religion est uniquement celui de l'histoire et de la sociologie, qui s'abstient en principe d'évaluer et de juger, et la même chose en ce qui concerne la philosophie. Il est facile d'être tolérant envers les doctrines philosophiques rivales si on fait simplement de l'histoire de la philosophie. Mais dès qu'on sort du domaine de l'histoire de la philosophie, évidemment, ça devient plus difficile d'être tolérant. Mais pour qui s'adonne à la philosophie dans un esprit scientifique, comme à une quête de la vérité, vous voyez là, il dit assez clairement que s'adonner à la philosophie dans un esprit scientifique, c'est à peu près la même chose que s'y adonner comme à une quête de la vérité. Donc pour qui pratique la philosophie de cette façon, pratiquer la tolérance envers une philosophie malpensante serait aussi absurde que pour un astrophysicien tolérer l'astrologie et aussi immoral que pour un fondamentaliste fanatique tolérer la doctrine unitarienne. Donc, indépendamment de la position personnelle que Quine adopte sur ce genre de questions, vous voyez qu'il y a une question tout à fait réelle et sérieuse, hein, qui est la question de quel genre de tolérance doit-on faire preuve à l'égard de croyances qu'on considère non seulement comme fausses, mais même comme absurdes. Alors, en ce qui concerne la philosophie, évidemment, on est tenté d'objecter qu'elle ne semble réellement comparable ni à une science ni à une religion. Ces propositions ne sont pas, ou en tout cas ne devraient pas être, des articles de foi. Et même s'il peut exister parfois, entre une doctrine philosophique et une autre, des différences qui semblent plus ou moins comparables à celles qui existent entre l'astrophysique et l'astrologie, le philosophe, qui estime en l'occurrence être dans la position de l'astrophysicien, ne dispose pas, il s'en faut de beaucoup, de moyens comparables aux siens, je veux dire comparables à ceux de l'astrophysicien, pour affronter son adversaire avec l'espoir de réussir à le réduire au silence. Pour ne rien dire du fait que même l'astrophysicien qui accepte la confrontation avec l'astrologue, avec de meilleures armes que celles du philosophe, n'a lui-même que des chances très réduites de réussir à convaincre son interlocuteur. Quine, en bon sceptique, plaide donc d'une façon qui, encore une fois, pourrait sembler un peu inattendue, pour la tolérance philosophique. En tout cas, la tolérance dans l'enseignement de la philosophie, tout en remarquant que le vrai problème, pour lequel il n'existe sûrement pas de méthode de décision générale, le vrai problème est d'avoir une conception équilibrée de la tolérance. Et on pourrait citer à ce propos la phrase de Goodman que je cite assez souvent, « Il y a des limites à ma tolérance de la tolérance ». Donc le problème, c'est pas, comme le dit Quine, c'est pas simplement d'être tolérant, mais c'est d'avoir une conception équilibrée de la tolérance. Et j'aimerais vous dire juste encore un mot de la façon dont Quine conclut l'article « Tolérance » qu'il a publié dans « Quidité ». Et dans cet article, à la fin de cet article, donc, il décrit d'une façon qui me semble assez réaliste une situation qui est familière à tous ceux qui ont enseigné dans le département de philosophie d'une université. Et je vais vous citer ce passage. Quine, qui a été lui-même confronté assez fréquemment, vous en doutez, à des situations de ce genre, dit « Quand il faut pourvoir les postes d'un département de philosophie et composer un programme d'études, d'autres considérations interviennent. La philosophie n'a pas la stabilité ni la force démonstrative dont jouit l'astrophysique. » Donc là, il reconnaît clairement que le philosophe n'est jamais véritablement dans la position de l'astrophysicien. « Il n'y a guère de consensus professionnel sur ce qui qualifie une philosophie sérieuse. L'équivalent philosophique de l'astrologue peut bénéficier d'un statut professionnel auquel ne peut accéder l'astrologue. » Donc, les philosophes qui sont, à ses yeux, dans la position de l'astrologue, ont, je ne sais pas s'il faut dire Dieu merci ou malheureusement, mais ont la possibilité de bénéficier d'un statut qui est nettement plus avantageux que celui auquel pourrait accéder l'astrologue. Que doit donc faire un département de philosophie auquel il est proposé d'élire un candidat que, comme cela arrive quelquefois, tous ses membres sont à peu près d'accord pour considérer à peu près comme l'équivalent philosophique d'un astrologue? Alors, voici la réponse de Quine. Ainsi mis au pied du mur, le département de philosophie se réunit pour élire le représentant d'une tradition ou d'un mouvement philosophique éminent que pas un seul des présents ne trouve intellectuellement respectable. C'est une situation qui se produit quand même pas très fréquemment, mais qui peut se produire. À moins d'un refus, comment négocier au mieux ce dilemme avec sa conscience? Je l'ai soumise un jour à Sir Stuart Hampshire, qui m'a suggéré de juger le candidat selon son degré d'érudition dans la doctrine philosophique obscurantiste qu'il professait. Donc, même si on considère la doctrine comme complètement obscurantiste, il y a au moins un élément sur lequel on peut se prononcer, c'est le degré de connaissance qu'il en a. Quand vous, si vous êtes au jury d'une thèse sur l'astrologie, je n'ai nommé personne, vous pouvez, il y a des moyens d'arriver à savoir si elle traite le sujet avec suffisamment d'érudition et de sérieux. L'attitude qu'elle adopte à son égard, ça, c'est un tout autre problème. Donc, il y a une chose qu'on peut toujours au moins faire, c'est juger le candidat selon son degré d'érudition dans la doctrine philosophique obscurantiste qu'il professait. L'érudition est un domaine qui admet un consensus objectif et essentiellement scientifique, si discrédité que soit la matière concernée. Donc aussi discrédité que soit la matière concernée, on peut encore juger un travail qui a été effectué sur cette matière, en principe complètement discrédité du point de vue de l'érudition. Vaudrait-il mieux s'opposer tout simplement à la nomination ? Bien, la réponse de Cohen est assez surprenante, je dirais qu'elle est étonnamment prudente. Hein. Vaudrait-il mieux s'opposer tout simplement à la nomination ? Peut-être que oui dans la plupart des cas, mais ces cas ne sauraient être définis à la légère. Un risque grave de dogmatisme pernicieux menace. Et si jamais cette philosophie que nous avons choisi de rembarrer était meilleure que nous ne le pensons ? Je dois conclure mon sujet de manière peu concluante, là encore, en revenant sur le point instable où s'équilibre la tolérance. Donc oui, il revient sur le fait que ce qui compte, ce n'est pas uniquement d'adopter une attitude tolérante, mais c'est d'adopter une forme de tolérance équilibrée. Donc vous voyez que Quine redoute apparemment plus le risque de dogmatisme que celui de voir enseigner même des doctrines philosophiques qui, de l'avis général, ne sont pas sérieuses. Ce n'est pas complètement illogique, puisque pour quelqu'un qui pense que la philosophie doit être pratiquée autant que possible dans un esprit scientifique et que toutes les convictions scientifiques sont par essence révisables, il n'est pas déraisonnable de considérer que cela doit être vrai également, et même a fortiori, des convictions philosophiques. C'est ce qui explique, dans le cas de la philosophie, comme dans tout le reste, ce que Vidal-Rosset appelle, je cite, « son refus désenchanté des convictions inébranlables ». De façon générale, Quine nourrit une méfiance solide à l'égard de toute chose de ce genre. Il est tout à fait légitime de parler à son propos d'un quelque chose comme un refus désenchanté des convictions inébranlables. Je me suis déjà permis à plusieurs reprises de le qualifier de philosophe sceptique. Il se trouve en effet que, comme l'ont remarqué et souvent regretté de nombreux commentateurs, il est amené à défendre un bon nombre de thèses négatives qui présente une apparence typiquement sceptique. Par exemple, la relativité de l'ontologie, l'indétermination de la traduction, la sous-détermination empirique des théories, l'inscrutabilité de la référence, etc. Et il est difficile de ne pas interpréter comme correspondant à une attitude foncièrement sceptique son rejet de choses comme les idées, les représentations, les significations, et même pour finir, comme je l'ai signalé, il y a un instant, de la connaissance, ou tout au moins du concept de connaissance, c'est-à-dire les scrupules qu'il manifeste à l'égard d'une utilisation non restreinte hein, du concept de connaissance, je veux dire, à l'égard de l'idée de se servir de ce concept sans conserver toujours une idée de derrière la tête. Donc même les scrupules de cette sorte peuvent être considérés comme des scrupules sceptiques. Alors à ce propos-là, je rappellerai simplement, je ne vais pas y revenir, puisque je crois que je vous en avais déjà parlé suffisamment longuement, qu'on trouve chez Villemin, à la fin de « What are philosophical systems ?», donc une comparaison entre le genre de philosophie que propose Quine, qu'on peut soupçonner de comporter un aspect éclectique, regrettable, aux yeux de gens comme Villemin. Quelle réaction doit-on avoir quand on compare ce genre de philosophie avec ce qu'étaient les grands systèmes philosophiques du passé, ce que Villemin fait dans ce passage, hein, où il dit les grands systèmes du rationalisme et de la philosophie classique ont été organisés conformément à des ontologies simples, même si le réalisme exigeait généralement le dualisme des idées et des phénomènes, donc on n'arrivait pas, en tout cas pas toujours, jusqu'à des ontologies complètement simples, c'est-à-dire des ontologies monistes, hein, ne reconnaissant l'existence que d'une seule espèce d'entité. Donc, les grands systèmes du rationalisme et de la philosophie classique ont été organisés conformément à des ontologies simples, même si le réalisme exigeait généralement le dualisme des idées et des phénomènes, sans parler de la troisième réalité de l'âme, ou si une version du conceptualisme distribuait les êtres sur un continuum de perfection, le philosophe qui est évoqué ici est évidemment Leibniz, ou si un système intuitionniste, conformément à la subordination de l'ontologie à la méthode, opposait d'abord la pensée et l'extension pour les réunir ensuite en une troisième substance, donc là, il s'agit de Descartes, la composition de l'esprit et du corps. Donc la troisième substance étant ce composé de l'esprit et du corps. Toutes ces variations et différences demeurent compatibles avec un certain sens de la simplicité et de l'unité ontologique. Au contraire, on peut se demander si le pragmatisme pluraliste contemporain s'insère dans ce schème, tolérant comme il est d'ontologie différente. Donc là, vous voyez, vous avez un problème majeur sur lequel j'avais, je crois, déjà insisté, c'est-à-dire si on considère le genre de philosophie qui ont obtenu le plus de crédit à l'époque récente, on a en effet l'impression que ce ne sont jamais des philosophies qui essaient réellement de correspondre à cet idéal qui est celui donc de l'organisation systématique conforme à des ontologies simples, à des ontologies complètement simple, aussi simple que possible. D'où la question, quelle réaction faut-il avoir à l'égard de ce qui semble être une évolution peut-être irréversible vers une forme ou une autre de ce que Villemin appelle le pragmatisme pluraliste, qui est une option pour laquelle, manifestement, il n'a pas énormément de sympathie lui-même. Puis d'autre part, évidemment, question corrélative, y a-t-il ou non une place dans sa classification des systèmes, et si oui, quelle place pour ce genre d'options, hein, puisque si vous construisez une classification systématique des systèmes philosophiques, c'est avec l'idée de présenter les systèmes comme étant des options entre lesquelles il faut choisir. Mais comment traiter les gens qui ne choisissent pas, hein? Comment faut-il traiter les philosophies qui ne choisissent pas ou qui empruntent des éléments, tantôt à un système, tantôt à un autre? Par exemple, Quine se révèle réaliste dans la philosophie théorique, mais nominaliste dans la philosophie morale et la philosophie de l'action, ce qui est une des choses que Villemin implicitement et même explicitement lui reproche. Hein. Comment faut-il donc traiter ce genre de philosophie et ont-elles ou non une place dans la classification? Alors la prochaine fois, si j'ai le temps, je vous dirai un mot d'un livre qui a été publié par Frédéric Neff récemment, puisqu'il est de 2004, hein, qui s'intitule « Qu'est-ce que la métaphysique ?» qui est intéressant parce que, à cause de l'attitude qu'il adopte hein, sur cette question, c'est-à-dire, en avons-nous terminé définitivement avec les grands systèmes métaphysiques du passé? Je vais essayer de retrouver, oui, un passage assez caractéristique de ce livre de Neff. Est-ce que nous en avons terminé définitivement avec les grands systèmes métaphysiques du passé? Devons-nous nous habituer désormais à l'idée de pratiquer la philosophie d'une façon complètement différente, hein, ayant renoncé plus ou moins à cette ambition d'unité, de systématicité? Neff dit ceci, qu'il suffit d'indiquer que l'on traitera des justifications suivantes de la fin de la métaphysique, donc la métaphysique systématique, sa stérilité et son outrecuidance, Kant, son caractère négatif et théologique, Nietzsche, sa structure ontologique, logique et théologique, Heidegger. La présente introduction à la métaphysique se propose de prendre l'exact contre-pied de ces affirmations en escomptant comme résultat minimal et certain de semer le doute sur le caractère dogmatique et sûr de soi du radotage sur la métaphysique. Quand l'opinion générale ne se contente pas de verser dans l'arrogance des silences chargés de sous-entendus et qui sont autant de condamnations de la naïveté d'une recherche de la vérité. Un résultat, espérons-le important, sera d'éclairer la situation actuelle exacte de la métaphysique dans l'ensemble des disciplines philosophiques, mais ce but ne peut être atteint qu'une fois mené à bien un examen critique préliminaire du bien fondé des thèses négatives sur la métaphysique, considérées comme mortes, achevées, finies, anéanties, éteintes, dépassées, trépassées, démolies, accomplies, détruites, déconstruites, etc. Je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre à la place du « etc. » parce qu'il a déjà utilisé pas mal de qualificatifs. Bref, ce qui veut dire remplacer la métaphysique par philosophie systématique. C'est un peu ce que je suis en train de vous suggérer de faire, puisque à peu près tous les arguments qui peuvent être utilisés contre l'idée d'essayer de maintenir et de prolonger quelque chose comme la tradition métaphysique peuvent être utilisés aussi contre l'idée d'essayer de pratiquer encore la philosophie sous forme systématique. Donc, accessoirement, si la question vous tient à cœur, vous pouvez lire ce livre qui est à la fois très provocant est très intéressant, et qui aboutit pour sa part à la conclusion que, de ce point de vue-là, on a raconté des histoires. Hein, c'est la conviction profonde de Neff, c'est qu'on a raconté des histoires et que la métaphysique s'est tout à fait bien portée pendant toute la durée du XXe siècle et qu'elle continue à le faire. Il y a même une métaphysique, quoi qu'en pensent certains, il y a une métaphysique analytique qui se porte en ce moment particulièrement bien. Bon, mais là, je ne veux pas me repartir dans une discussion de cette question. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en vous remerciant de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.